Bonjour et bienvenue dans l'émission Compost Cosmique sur Radio BLV 93.6. Chaque mois, Compost Cosmique vous propose une décomposition alchimique entre musique et extraits littéraires comme des clés ouvrant des portes vers d'autres horizons.
Nous vous proposons pour ce 28e numéro un recueil de nouvelles de Ray Bradbury, paru en 1950, Chronique martienne. Ce texte fantastique compte l'histoire des premiers colons terriens vers la planète Mars à travers un journal de bord daté de 2030.
Une émission compostée par Compost Cosmique.
Planet Flare.
martienne de Ray Bradbury.
Compost cosmique.
Février 2030. Monsieur et Madame K n'étaient pas vieux. Ils avaient la peau cuivrée, les yeux pareils à des pièces d'or, la voix délicatement musicale des vrais martiens. Jadis, ils aimaient peindre des tableaux au feu chimique, se baigner dans les canaux aux saisons, où les arbres à vin les gorgeaient de liqueurs fertes, et bavarder jusqu'à l'aube près des portraits aux phosphorescences bleues dans le conservoir. Mais ils n'étaient plus heureux. Ce matin-là, debout entre les colonnes, Madame K écoutait les sables du désert se réchauffer, se liquéfier en une cire jaune qui avait l'air de fuir à l'horizon. Il allait se passer quelque chose. Elle attendit. Elle surveillait le ciel bleu de mars, comme si, d'une seconde à l'autre, il pouvait se ramasser sur lui-même, se concentrer, pour expulser quelques étincelants miracles sur le sable. Rien ne se passa. Fatiguée d'attendre, elle déambula entre les colonnes embuées. Une pluie fine jaillissait du sommet des fûts cannelés, rafraîchissant l'air brûlant, et retombait en douceur sur elle. Les jours de canicule, c'était comme marcher dans un ruisseau. Des filets d'eau fraîche faisaient miroiter les sols. Elle entendait au loin son mari qui jouait imperturbablement de son livre. Ses doigts ne se lassaient jamais des anciens chants. En secret, elle souhaita que revienne un jour où il se passerait autant de temps à l'étreindre et à la caresser comme une petite harpe qu'il en consacrait à ses invraisemblables livres. Mais non. Elle secoua la tête avec à peine perceptible un haussement d'épaule indulgent. Ses paupières se refermèrent doucement sur ses yeux dorés. Le mariage transformait les gens en vieillards routiniers avant l'âge. Elle se laissa aller dans un fauteuil qui accompagna son mouvement pour épouser la forme de son corps. Elle ferma les yeux avec force, en proie à une sourde inquiétude. Le rêve survint. Ses doigts bruns frémirent, se soulevèrent, agrippèrent le vide. Un instant plus tard, elle se redressait, désorientée, haletante. Elle jeta un coup d'œil rapide autour d'elle, comme si elle s'attendait à se trouver face à face avec quelqu'un. Elle parut déçue, l'espace entre les piliers était vide. Son mari s'encadra dans une porte triangulaire. « Tu as appelé ? » demanda-t-il avec irritation. « Non, » clama-t-elle. « Il me semblait avoir entendu crier. « Ah bon ? J'étais à moitié endormie et j'ai fait un rêve. En plein jour ? C'est pas dans tes habitudes. » Elle restait là, comme si son rêve l'avait frappée en plein visage. « Étrange, vraiment étrange, » murmura-t-elle, « ce rêve. »« Ah oui ?» Il n'avait manifestement qu'une envie, aller retrouver son livre. « J'ai rêvé d'un homme. »« Un homme ? » ?»« Grand, un bon 1,85 m. »« Ridicule, un géant difforme. » D'une certaine façon, elle cherchait ses mots. Il avait l'air normal, malgré sa taille, et il avait, oh, je sais que tu vas trouver ça idiot, il avait les yeux bleus. « Les yeux bleus ? Grand Dieu !» s'écria Monsieur K. « Qu'est-ce que tu vas rêver la prochaine fois ? Je suppose qu'il avait les cheveux noirs. »« Comment tu as deviné ?» Elle était surexcitée. « J'ai pris la couleur la plus invraisemblable, » répliqua-t-il froidement. « Eh bien oui, ils étaient noirs, » s'exclama-t-elle, « et il avait la peau très blanche. » Pour ça, il sortait vraiment de l'ordinaire. Il portait un uniforme étrange. Il descendait du ciel et me parlait aimablement. Elle sourit. Du ciel ? Quelle absurdité !
Back.
Chronique martienne de Ray Bradbury.
Compost
Mars 2031. Il voulait embarquer sur la fusée à destination de Mars. Tôt le matin, il se rendit à la piste de lance et, à travers le grillage, cria aux hommes en uniforme qu'il voulait partir pour Mars. Ayant fait valoir sa qualité de contribuable, il dit qu'il s'appelait Pritchard et qu'il avait le droit d'aller sur Mars. N'était-il pas né ici même, dans l'Ohio ? N'était-il pas un bon citoyen ? Alors pourquoi lui aussi ne pourrait-il pas aller sur Mars ? Il brandit les poings vers eux et leur dit qu'il voulait quitter la Terre. N'importe quelle personne sensée voulait quitter la Terre. Un vaste conflit nucléaire allait y éclater dans les 2 ans et il ne voulait pas être là quand la chose se produirait. Lui et des milliers de ses semblables, s'ils avaient le moindre sens commun, partiraient pour Mars. Pensez donc, échapper aux guerres, à la censure, à l'étatisme, à la conscription, au contrôle gouvernemental de ceci et de cela, de l'art et de la science. La Terre, vous pouviez vous la garder. Lui, il offrait sa main droite, son cœur, sa tête, pour avoir l'occasion d'aller sur Mars. Que fallait-il faire ? Quel papier fallait-il signer ? Quelle personne fallait-il connaître pour embarquer ? Ils se moquèrent de lui à travers le grillage. Il n'avait sûrement pas envie de partir pour Mars, dirent-ils. Ne savait-il pas que les premières et deuxièmes expéditions avaient échoué, disparu, que les équipages y étaient sans doute restés ? Mais il ne pouvait pas le prouver. « Il n'avait aucune certitude, » répliqua-t-il, accroché au grillage. « Peut-être était-ce un pays de cocagne, là-haut, et que le capitaine York et le capitaine Williams ne se souciaient tout simplement pas de revenir. » Allait-il se décider à lui ouvrir la grille et à le laisser monter à bord de la 3e fusée expéditionnaire ou lui faudrait-il la défoncer à coups de pied ? On lui dit de se taire. Il vit les hommes qui se dirigeaient vers la fusée. « Attendez-moi » cria-t-il. « Ne me laissez pas sur ce monde affreux. Il faut que je m'en aille. Il va y avoir une guerre nucléaire. Ne me laissez pas sur Terre. » On l'entraîna de force. La porte du quart de police se referma dans un claquement sec et on l'emmena dans le petit matin, le visage collé à la vitre arrière. Et juste avant que la sirène ne se déclenche en haut d'une côte, il vit la flamme rouge, entendit le grondement puissant et sentit l'énorme secousse tandis que la fusée argentée décollait en flèche et l'abandonnait à un banal lundi matin sur la banale planète Terre.
Thanks.
De Ray Bradbury.
Juin
2032. Parlez-moi un peu de cette civilisation. Ils savaient vivre avec la nature et s'entendre avec elle. Ils ne s'acharnaient pas à éliminer en eux l'animal pour n'être que des hommes. C'est l'erreur que nous avons commise quand Darwin est entré en scène. Nous l'avons serré dans nos bras, tout sourire, et Huxley et Freud avec lui. Puis nous avons découvert que Darwin et nos religions ne s'accordaient pas. Ou du moins, nous n'avons pas pensé la chose possible. Pauvres imbéciles que nous étions. Nous avons essayé d'ébranler Darwin, Huxley et Freud, mais ils ne se sont pas laissés faire. Alors, comme des idiots, nous avons essayé d'abattre la religion. Là, nous avons assez bien réussi. Nous avons perdu la foi et sommes allés nous demandant quel était le but de la vie. Si l'art n'était rien de plus que l'expression d'un désir frustré, si la religion n'était qu'aveuglement, quel était l'intérêt de la vie ? La foi avait toujours donné réponse à tout, mais elle avait été reléguée aux oubliettes avec Freud et Darwin. Nous étions et sommes encore des hommes perdus. Et ces Martiens se seraient trouvés ? Oui, ils savaient marier science et religion de façon que l'une et l'autre s'épaulent, s'enrichissent mutuellement, au lieu de se nier, l'idéal.
chronique martienne de Ray Bradbury.
Composte cosmique.
Août 2032. Les hommes de la Terre vinrent sur Mars. Ils venaient parce qu'ils avaient peur ou ignoraient la peur, parce qu'ils étaient heureux ou malheureux, parce qu'ils se sentaient ou ne se sentaient pas des âmes de pèlerins. Chacun avait ses raisons. Ils quittaient des femmes, des occupations ou des villes odieuses. Ils venaient pour découvrir, fuir ou obtenir quelque chose. Ils venaient pour déterrer, enterrer ou abandonner quelque chose. Ils venaient avec des rêves étriqués ou grandioses, ou pas de rêve du tout. Mais dans beaucoup de villes, un doigt gouvernemental jaillissait d'affiches en quadrichromie pour leur dire « Du travail vous attend dans le ciel, partez pour Mars !» Et les hommes s'avançaient en traînant des pieds, quelques-uns pour commencer une quarantaine, car la plupart sentaient le haut mal les envahir avant même que la fusée ne se soit élancée dans l'espace. Et ce mal avait pour nom l'isolement. Car en voyant sa ville natale rapetisser jusqu'à atteindre la grosseur du poing, puis d'un citron vert, puis d'une tête d'épingle, pour s'évanouir dans le sillage de feu, on avait l'impression de n'être jamais né. S'il n'y avait plus de ville, on était nulle part, perdu dans l'espace, sans point de repère, sans autre compagnie que des étrangers. Et quand l'Illinois, l'Iowa, le Missouri ou le Montana disparaissaient dans des mers de nuages et que, pour comble, les États-Unis se réduisaient à un îlot brumeux et toute la planète Terre à une balle de baseball bueuse expédiée au loin, c'était là que l'on se sentait vraiment seul, errant dans les plaines de l'espace, en route pour un endroit inimaginable. Rien de surprenant donc si les premiers immigrants furent rares. Leur nombre s'accrut régulièrement en proportion des terriens déjà recensés sur Mars. Les chiffres étaient une source de réconfort, mais les premiers solitaires ne durent compter que sur eux-mêmes.
Yeah.
chronique martienne de Ray Bradbury.
Octobre 2033. Mars était un rivage lointain sur lequel les hommes se répandaient par vagues. Chaque vague était différente et chaque vague plus forte. La première apporta des hommes habitués aux grands espaces, au froid et à la solitude, qui vivaient au milieu des coyotes et du bétail. Des hommes sans la moindre once de graisse, au visage émacié par les années, aux yeux en tête de clou, aux mains parcheminées comme de vieux gants, prêtes à se poser sur n'importe quoi. Mars ne pouvait rien contre eux, car ils avaient pour élément naturel des plaines et des prairies aussi vastes que les étendues martiennes. Ils arrivèrent et rendirent tout ce vide un peu moins vide pour en encourager d'autres à les suivre. Ils mirent des carreaux aux fenêtres béantes et des lumières derrière les carreaux. C'étaient les premiers hommes. Chacun savait qui seraient les premières femmes. Les seconds émigrants auraient dû venir d'autres pays avec d'autres accents et d'autres idées, mais les fusées étaient américaines, les hommes étaient américains, et les choses en restèrent là, tandis que l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Australie et les îles regardaient les chandelles romaines partir sans eux. Le reste du monde était plongé dans la guerre ou des pensées de guerre. Les seconds émigrants furent donc encore des Américains. Issus des quartiers populaires et des couloirs de métro, ils trouvèrent un repos immensément réparateur auprès de ces hommes taciturnes qui vivaient des états fertiles en épineux et connaissaient si bien la valeur du silence qu'on se sentait rempli de paix à leur contact après tant d'années de compression dans des tubes, des boîtes et des caisses à New York. Et parmi les seconds émigrants, s'en trouvaient certains qui, à en juger par leurs yeux, avaient l'air d'être en route vers Dieu.
We'll be right back.
ancienne de Ray Bradbury.
Compost cosmique.
Novembre 2033. Nous sommes les anciens martiens qui avons quitté nos cités de marbre pour aller dans les collines, loin de la vie matérielle qui était la nôtre. Il y a très longtemps, donc, nous sommes devenus ce que nous sommes à présent. Jadis, nous étions des hommes pourvus, comme vous, d'un corps, de jambes et de bras. Selon la légende, l'un de nous, un homme de bien, a découvert un moyen de libérer l'âme et l'intelligence humaine, de nous libérer des maux physiques et de la mélancolie, de la mort et des changements, de la mauvaise humeur et de la sénilité. Nous avons donc pris l'aspect d'une incandescence bleutée et avons toujours vécu depuis dans les vents, les cieux, les collines, ni fiers ni arrogants, ni riches ni pauvres, ni passionnés ni insensibles. Nous avons vécu à l'écart de ceux que nous avions délaissés, les autres hommes de ce monde, et le secret de notre métamorphose a été oublié, le processus perdu. Mais nous ne mourrons jamais, ni ne nuirons à qui que ce soit. Nous nous sommes débarrassés des péchés du corps et vivons dans la grâce de Dieu. Nous ne convoitons pas le bien d'autrui, nous n'avons aucun bien. Nous ne connaissons ni le vol, ni le meurtre, ni la concupiscence, ni la haine. Nous vivons dans la joie. Nous ne pouvons nous reproduire, nous ne mangeons pas, ne buvons pas, ne faisons pas la guerre. Nous nous sommes dépouillés de toutes les sensualités, de tous les enfantillages et péchés du corps quand nous avons renoncé à notre composante corporelle. Nous avons largué le péché, père pérégrine, le voilà brûlé comme les feuilles mortes dans le grand panier de l'automne, disparu comme la neige sale d'un méchant hiver, comme les fleurs sexuées d'un printemps rouge et jaune, comme les nuits haletantes d'un été torride. Nous profitons d'une saison tempérée et d'un climat qui n'est riche que de pensées. Nous voudrions vous dire que nous apprécions l'endroit que vous nous avez aménagé ici, mais nous n'en avons pas besoin, car chacun de nous est un temple en soi, et nous n'avons nul besoin d'un endroit où nous purifier. Pardonnez-nous de ne pas être venus vous trouver plus tôt, mais nous menons une existence à part, à l'écart, et n'avons parlé à personne depuis 10 000 ans, ni n'avons pratiqué la moindre forme d'ingérence dans la vie de cette planète. Il vient de vous venir à l'esprit que nous sommes les lits des champs. Nous ne travaillons pas, ne prenons pas de la peine. Vous avez raison. Aussi vous suggérons-nous d'emporter ce temple dans vos cités nouvelles et de l'employer à leur purification. Car soyez-en assurés, nous sommes heureux et en paix.
We'll be right back.
chronique martienne de Ray Bradbury.
Compost
Novembre 2036. Ce soir-là, ils sortirent tous de chez eux pour regarder le ciel. Ils abandonnaient leur dîner, leur vaisselle ou leur toilette avant de se rendre au spectacle pour sortir sur leur véranda, qui n'était déjà plus de la première jeunesse, et contempler tout là-bas l'étoile verte de la terre. Ils se dérangeaient sans effort conscient, tous sans exception, pour mieux comprendre les nouvelles entendues à la radio un moment plus tôt. Là-bas, c'était la terre, la guerre qui se préparait, et des centaines de milliers de mères, grand-mères, pères, frères, tantes, oncles ou cousins. Debout, dans les vérandas, ils s'efforçaient de croire à l'existence de la Terre, comme ils s'étaient efforcés un jour de croire à l'existence de Mars. Le problème était renversé. Pratiquement, la Terre était morte désormais. Il y avait 3 ou 4 ans qu'ils l'avaient quittée. L'espace était un anesthésique. 100 millions de kilomètres d'espace vous engourdissaient, endormait la mémoire, dépeuplait la terre, effaçait le passé et permettait aux gens ici de continuer à travailler. Mais ce soir, les morts se relevaient. La terre était de nouveau habitée, la mémoire se réveillait, 1 million de noms revenaient sur les lèvres. Que faisait un tel ce soir sur la terre? Et celui-ci, et celui-là? Sur les vérandas, les gens se lançaient des regards obliques. À 9 heures, la terre parut exploser, s'enflammer et se consumer. Les occupants des vérandas levèrent les mains comme pour combattre le feu. Ils attendirent. À minuit, le feu était éteint. La terre était toujours là. Un soupir, tel un vent d'automne, s'éleva des vérandas. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles d'Harry. Il va bien. On devrait envoyer un message à maman. Elle va bien. Vraiment ? Allons, ne t'inquiète pas. » Tu crois que ça va aller pour elle ? Naturellement, enfin. Allez, viens te coucher. Mais personne ne bougeait. Des dîners tardifs furent transportés sur les pelouses et disposés sur des tables pliantes, et on picora lentement jusqu'à 2 heures, jusqu'à ce que clignote le message radioluminique expédié de la Terre. Ils déchiffrèrent les grands signaux en morse qui palpitaient comme de lointaines lucioles. Continent australien atomisé, suite à explosion prématurée stock-bombe, Los Angeles, Londres, bombardé, guerre, revenez, revenez. Ils se levèrent de leur table. Revenez, revenez, revenez. Tu as eu des nouvelles de ton frère Ted cette année? Tu sais, à 5 $ la lettre pour la terre, je n'écris pas beaucoup. Revenez. Je me demandais ce que devenait Jane. Tu te souviens de Jane, ma petite sœur? Revenez. À 3 heures du matin, un matin plutôt frisquet, le marchand de bagages leva les yeux. Une foule de gens s'avançait dans la rue. « Je suis resté ouvert tard exprès. Qu'est-ce que ce sera, monsieur ?» À l'aube, il ne restait plus une valise sur ses étagères.
Yeah.
ancienne de Ray Bradbury. Je brûle un mode d'existence, tout comme ce mode d'existence est en train de brûler sur Terre en ce moment même. Pardonnez-moi si je parle comme un homme politique. Après tout, je suis un ancien gouverneur d'État, honnête de surcroît, ce pourquoi on m'en a voulu. La vie sur Terre n'a jamais pris le temps de donner quoi que ce soit de bon. La science est allée trop loin et trop vite pour nous, et les gens se sont retrouvés perdus dans une jungle mécanique, comme des enfants qui font tout un plat de jolies choses, gadgets, hélicoptères, fusées. Ils ont mis l'accent sur les fausses valeurs, sur les machines, plutôt que sur la façon de les utiliser. Les guerres sont devenues de plus en plus dévastatrices et ont fini par tuer la Terre. C'est ce que signifie le silence de la radio. C'est ce que nous avons fui. Et on a eu de la chance. Il ne reste plus de fusées. Il est temps que vous sachiez que ceci n'est pas une partie de pêche. J'ai tardé à vous le dire. La Terre n'existe plus. Il n'y aura plus de voyages interplanétaires pendant des siècles. Ça en est peut-être fini à jamais. Mais ce mode de vie s'est révélé une faillite et s'est étranglé de ses propres mains. Vous êtes jeune. Je vous répéterai ça tous les jours jusqu'à ce que ça rentre.
Revient m'inventer un corps.
C'était Compost Cosmique, une émission pour vous accompagner toutes les deux semaines, les mardis de 13h à 14h et les jeudis de 21h à 22h et en podcast sur le site de Radio BLV 93.6. Allô Cosmos, ici Compost.
Tout n'est que recommencement.